9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bien le bonjour mes camarades, Maître Serran est ravi de vous retrouver. Alors je sais que vendredi c'est jour de prière, mais je vous le dis tout de suite, vous ne me trouverez pas à la mosquée tout à l'heure. Normal, coronavirus oblige, mon cher Philippe, on n'est jamais trop prudent. Alors tu me diras que très souvent, hein, quand tu vas prier à la mosquée, t'as toujours un type un peu khanes qui est devant toi avec des chaussettes qui sentent le slip sale. Et on pourrait croire qu'on est immunisé contre tout. Eh ben je sais pas, mais moi je veux pas courir de risque. D'ailleurs, vous-même, mon cher Philippe, vous avez changé vos habitudes avec moi d'habitude. Dès que j'arrive à la radio, on se fait une petite accolade, un petit bisou. Et là, je vous ai senti réticent à l'accolade et encore plus au bisou. Alors, mon petit Philippe, vous avez oublié que derrière Maître Serran, c'est Mourad qui se cache, un ami de 30 ans. Bon, et puis en même temps, hein, tous les jours, sur toutes les chaînes, t'as des émissions sur le coronavirus, c'est un peu anxiogène quand même. Il y a même un compteur où en direct, on affiche le nombre de contaminés et le nombre de morts. Bon, pour le moment, ceux qui ont clamsé, les pauvres, ont un âge quelque peu avancé et étaient déjà atteints d'autres pathologies. Alors faut-il absolument paniquer. Bon, je fais le malin, mais je me suis quand même interrogé sur ma propre personne. J'ai fait ma propre étude de terrain. On nous dit que ce sont les personnes âgées les plus fragiles qui sont touchées. Alors, hypothèse, tu as 51 ans, par exemple, hein, comme par hasard. Alors, j'ai moi aussi 51 ans. Est-ce que je fais partie des personnes potentiellement fragiles ou pas? Je vous pose la question, mon cher Philippe, mais attention à votre réponse.
Je peux vous répondre.
Bah oui, mais j'allais dire, n'oubliez pas que vous avez 15 ans de plus que moi. Donc, si je suis fragile.
Et encore sans les taxes.
Voilà, si je suis fragile, donc vous serez définitivement condamné. Et puis, avec ce virus, on a des réactions totalement bizarres. J'étais hier dans le bus et à un moment, je me mets à tousser. Alors j'ai essayé de me retenir, mais là c'est le chétan qui est comme ça. D'habitude je tousse pas et je sais pas pourquoi j'essaie de me retenir, j'y arrive pas. Je tousse et tu sens un malaise autour de toi. Je me suis dit, ils vont me jeter du bus, mais j'ai été sauvé. Au bout de 5 minutes, il y a un jeune qui est monté dans le bus avec un masque. Le pauvre, il a focalisé tous les regards jusqu'à ce qu'il descende du bus. Mais il y a pire, comme bizarrerie en Australie, par exemple, les gens achètent du papier toilette en grande quantité. On a vu des chariots remplis de PQ, c'est bizarre quand même. C'est-à-dire que l'Australien se dit, en cas de confinement, la chose hyper indispensable, c'est d'avoir sous la main du papier toilette. Alors, petit conseil pour nos amis australiens. Après avoir fait caca, au lieu d'utiliser ton papier toilette qui ne nettoie pas, mais qui a pour seule conséquence d'étaler ta merde, tu ferais mieux de te laver le derrière avec de l'eau. Crois-moi, c'est beaucoup plus propre. Allez, les gars, il faut quand même garder raison, ne pas céder à la panique. En attendant, n'hésitez pas à nous appeler au 01 53 48 3000 pour poser toutes vos questions. Enfin, sauf si t'es un auditeur contaminé, on veut pas courir de risque. Émission sous le contrôle de notre patient zéro, monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Alors, vous continuez à prendre les transports en commun?
Oui.
Ah ouais, c'est bon. On a découvert que vous étiez lancé il y a quelques semaines dans les transports en commun et vous continuez.
Ouais, et j'ai jamais autant pris les transports en commun que quand
au moment où vous voudrez pas les prendre.
Je vous assure que c'est vrai, c'est un truc de dingue, mais c'est vrai. Mais oui, je continue. Mais ça, c'est fou parce que on n'ose pas éternuer, on n'ose pas tousser, c'est un peu compliqué ça. Mais voilà, ça se passe correctement, on n'est pas là tous à se prendre la bouche, donc on fait attention.
Je déteste cette expression.
Se prendre la bouche?
Ah ouais. Alors oui, franchement, écoutez, c'est très moche comme expression.
Aussi se prendre le cul, mais ça c'est autre chose. Mon cher Philippe.
Je me demande si c'est pas pire comme expression. Ah
bon.
Bon, c'est quoi? Je vous préfère quand vous parlez de droit.
Ouais, c'est vrai.
Sinon, je vous invite mardi avec Nadia El Bouga et on verra qui fera le malin.
Ah oui, tiens.
Coup de tonnerre, tiens, dans la justice, Maître Serran, puisque la justice française a reconnu cette semaine qu'un contrat de travail, qu'il existe un contrat de travail entre Uber et un ex-chauffeur. Donc, c'est une décision qui a été rendue par la Cour de cassation, la plus haute juridiction française. Donc, est-ce que ça va changer finalement pour tous ceux qui sont, alors je sais pas si on dit des salariés, mais qui sont donc...
Qui seront en tout cas potentiellement des salariés, puisqu'il faut savoir que... Et on a une première décision qui avait été rendue en janvier dernier par la Cour d'appel qui avait donné raison donc à l'intéressé. C'est-à-dire que c'est une personne, c'est un auto-entrepreneur qui bossait pour Uber et la Cour d'appel a considéré qui avait ce qu'on appelle en droit un lien de subordination. C'est-à-dire qu'en gros, Uber était le patron. Donc, si Uber est le patron, cet auto-entrepreneur est le salarié. Donc, Uber était devant la Cour de cassation. La Cour de cassation a rejeté purement et simplement ce recours. Donc, c'est vrai que c'est une révolution puisque ces sociétés extrêmement puissantes, ces plateformes, il n'y a pas que Uber, hein, mais on verra que ça peut ensuite s'appliquer à d'autres plateformes. Ces plateformes donc avaient pour habitude en gros d'employer, mais pas en qualité de salarié, souvent en qualité d'auto-entrepreneur, donc ces chauffeurs. On leur impose des horaires, on leur impose des clients, on leur impose des conditions de travail. Et quand on vous impose tout ça, la Cour de cassation a considéré que ça ressemblait très fortement à un contrat de travail et pas simplement à une prestation avec un auto-entrepreneur. Alors les conséquences sont évidemment importantes. Puisqu'à partir du moment où vous êtes considéré comme salarié, alors d'abord vous allez avoir à minima donc un salaire qui devra vous être versé, vous aurez une protection sociale. C'est toute la conséquence de cette décision qui est pour Uber. Évidemment, a dit, écoutez, c'est exceptionnel, ça concerne un seul salarié, enfin une seule personne, et ça s'appliquera pas à tout le monde. Sauf qu'il faut pas oublier que c'est la plus haute juridiction en France, et quand la Cour de cassation dit quelque chose, les juridictions, cours d'appel, conseils de prud'homme, sont et seront tenues, évidemment, non seulement de s'en inspirer, mais d'appliquer la décision. Donc concrètement, tous ceux qui sont dans cette situation, les chauffeurs Uber là, les chauffeurs VTC qui nous écoutent, tous ceux qui sont avec d'autres sociétés, sociétés de livraison, Deliveroo et autres, peuvent, si elles le souhaitent, aujourd'hui saisir le Conseil de prud'homme, demander une requalification de la situation, c'est-à-dire c'est un contrat de travail. Avec une décision comme celle de la Cour de cassation, on voit mal, sous réserve évidemment qu'on soit dans le même contexte, mais on voit mal comment est-ce que les juridictions de première instance, comment est-ce que les conseils de prud'homme pourraient ne pas leur donner satisfaction. Donc c'est une vraie révolution, révolution aussi pour ces grands groupes, puisque c'est pas la même chose quand vous employez des salariés que quand vous employez des indépendants financièrement parlant, mais c'est franchement une grande évolution. Et puis bravo pour la Cour de cassation qui a interprété les choses alors que ça semblait pour les juristes évident. Je le redis, à partir du moment où vous avez une personne qui vous donne des ordres, une personne qui vous impose des horaires, une personne qui vous impose une manière de travailler, ça s'appelle un patron. Et donc, en l'occurrence, Uber est considéré comme un patron, comme dans n'importe quelle société, un patron qui va travailler avec ses salariés et toutes les conséquences donc qui pourront en découler.
Mais alors, est-ce que cette décision va s'appliquer à l'ensemble de ceux qui aujourd'hui sont connectés à la plateforme Uber?
Encore une fois, elle ne s'appliquera pas automatiquement. C'est-à-dire que Uber va pas faire.
Ça n'a pas vocation à faire jurisprudence.
Non. Alors, ça ne fait jurisprudence qu'à partir du moment où je suis moi dans la situation de cette personne qui a obtenu gain de cause. Je travaille avec Uber et je vais envoyer un petit courrier à Uber pour dire écoutez, il y a une décision qui a été rendue. Merci donc de qualifier notre relation en contrat de travail. La logique voudrait qu'Uber dise bon bah oui, puisqu'on a une décision importante qui a été donnée, c'est peu probable qu'ils le fassent spontanément, mais s'ils le font pas spontanément, vous pourrez invoquer cette décision, cette jurisprudence, nouvelle jurisprudence, auprès d'un conseil de prud'homme et mettre ça en avant. Mais c'est peu probable que ces grands groupes spontanément disent bon, il y a une décision qui a été rendue, ok les gars, désormais vous serez tous mes salariés. Ils vont pas le faire.
Alors vous êtes rémunéré sur quelle base finalement?
En qualité de...
Bah, si vous avez un contrat de salarié.
Bah, après, le contrat...
C'est sur quelle base qu'ils appliquent le salaire?
La discussion, c'est justement ça. C'est-à-dire que on travaille tous les deux. Si je vous emploie, vous m'employez comme indépendant, vous allez me donner une fonction et puis on va le déterminer d'un montant précis. Mais si je suis votre salarié, même le jour où je ne travaille pas, faudra quand même me rémunérer. J'ai la grosse différence, c'est aussi ça. Ça va pas être, j'allais presque dire, selon le bon vouloir d'Uber. Bon, je caricature un peu, mais ça va être ça. J'aurai un salaire fixe. Alors après, le salaire va se discuter et se négocier. Mais on a un salaire fixe, on a une protection sociale, on a des vacances. On a l'impression que c'est extraordinaire de dire ça aujourd'hui, mais c'est quand même des acquis sociaux. Donc vous devenez un salarié lambda. Alors oui, il y aura une discussion sur le salaire. Est-ce que ce sera un contrat à durée déterminée, indéterminée? Enfin, comme entre guillemets, les questions qui vont se poser seront les mêmes questions que pour n'importe quel salarié à l'égard d'une entreprise. Et la vraie différence, c'est ça. Alors que quand vous êtes auto-entrepreneur, bon, alors, si vous vous connectez, vous avez une course de course à faire. Si demain, vous avez un accident de travail, c'est pour votre pomme. Si vous voulez prendre des vacances, c'est pas Uber qui va vous régler, puisque vous n'allez pas travailler à ce moment-là. Donc, c'est quand même une vraie, vraie révolution en la matière. Et je le redis, Uber, mais il est dans son rôle. En tout cas, les avocats d'Uber ont indiqué que, bon, écoutez, c'est exceptionnel et ça s'arrêtera là. Sauf que c'est la plus haute juridiction, et quand une juridiction, et notamment la plus haute juridiction en France, rend une décision, ça fait ce qu'on appelle jurisprudence. Et donc ceux qui nous écoutent, ceux qui sont dans cette situation-là, il ne faut pas d'abord hésiter éventuellement à contacter l'intéressé pour dire voilà la situation, et puis même lui envoyer une copie, comme dirait l'autre, de la décision. C'est peu probable qu'Uber dise oui, ok les gars, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, faut pas hésiter à saisir le Conseil des prud'hommes et à demander une requalification de votre contrat.
Il n'y a pas besoin d'avocat pour ça, Maître Serran.
Ah, si vous voulez saisir le Conseil des prud'hommes, non, il n'y a pas besoin d'avocat. Fortement conseillé, comme je le dis toujours, mais c'est une procédure où, à ce stade-là, en tout cas, Conseil des prud'hommes, l'avocat n'est pas obligatoire.
Bien. Alors, je ne sais pas si le standard fonctionne ce matin, donc je ne sais pas, on va mettre de la musique jusqu'à 10h.
Et je chante ou vous mettez vraiment
je sais pas
a cappella, je sais comment.
A cappella, on peut faire a cappella, ouais, on va attendre que ça soit réparé. À moins que vous ayez vous-même des compétences en standard téléphonique.
Non, je n'ai pas ça.
Non, vous n'avez pas ça, navré. Maître Serran, c'est tout droit. Donc, ouais. Maître Serran, t'as vu jusqu'à 10h ce Beurre FM.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors, a priori, Maître Serran, le standard refonctionne. Donc, les gens qui souhaitent vont pouvoir vous poser des questions, vous interroger au 01 53 48 3000. Allô, bonjour.
Bonjour, c'est Jamila de l'Essonne.
Oui,
bonjour,
Jamila.
Bonjour, Monsieur Philippe.
Bonjour, Jamila.
Je suis très, très contente. Franchement, ça fait longtemps que j'attends vous appeler, mais j'arrivais pas. Bonjour, Maître.
Bonjour, Jamila.
Voilà ma question. Voilà, je présente mon problème. Moi, j'étais mariée et j'avais la voiture de mon mari sur mon nom. Et pendant des années, c'est lui qui conduisait, donc j'avais plus de poids. Un jour, je me suis fait
il conduisait contrôler. Mal, donc.
Voilà. Je me suis fait contrôler et voilà, du coup, évaré que j'avais plus de poids. Je me suis fait arrêter. Ils m'ont ramené au commissariat. Donc après, j'ai refait mon permis, j'ai refait ma vie. Je suis chauffeur scolaire maintenant. Le problème, c'est que là, il y a 2 ans, j'ai demandé la nationalité et au bout de 5 mois, ils m'ont donné la réponse comme quoi ajournement de 2 ans suite à défaut de permis. Mmh.
Alors souvent, quelle que soit l'infraction, alors quand il y a des infractions graves, je peux l'entendre et le comprendre. Mais même pour des broutilles et puis une histoire de points, qu'on le veuille ou non, encore une fois, ça reste une broutille, faut quand même relativiser la chose.
Ouais.
Mais c'est vrai que souvent, donc on a ça comme entre guillemets excuse, en disant écoutez, vous avez ça comme passif, et donc là pour vous c'est cette histoire de points, donc c'est ajourné à 2 ans, vous m'avez dit, c'est ça?
2 ans.
D'accord.
Oui. Le mois d'août, ça va faire 2 ans.
Bon, donc ce qui veut dire concrètement que pendant ce laps de temps, alors soit la décision avait été contestée et puis c'est une juridiction qui finira par dire qui a tort, qui a raison, ou est-ce que l'administration a exagéré. En droit, on dit que c'est disproportionné. Voilà, encore une fois, pour une histoire de points, vous refusez ça, ça me semble tiré par les cheveux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand c'est ajourné à 2 ans, ça vous autorise à reformuler une demande dans ce laps de temps, mais ça ne veut pas dire, puisque souvent on a des personnes qui l'interprètent comme ça, ça ne veut pas dire que quand vous allez redéposer un dossier dans ce délai de 2 ans, qu'automatiquement l'administration va dire bah oui c'est ok. C'est-à-dire qu'il pourrait, sur éventuellement un autre motif, sur une autre, pour une autre raison, refuser à nouveau. Donc souvent on l'entend, on dit en maître, c'est ajourné, tant pis, je vais attendre 2 ans et je redépose. Oui, on peut attendre 2 ans et redéposer, mais ça ne veut pas dire que l'administration est obligée, au bout de 2 ans, de vous donner satisfaction. Donc il faut faire attention à ça. Donc quand il y a des ajournements, et en particulier quand l'argumentation est tirée par les cheveux, et sincèrement, vous concernant, c'est manifestement le cas, quand c'est comme ça, il ne faut pas hésiter à contester. Et au lieu d'attendre les 2 ans.
C'est ça le problème.
C'est pardon
ouais, le problème, je n'ai pas contesté.
Ah bah non, enfin voilà, j'ai bien compris, parce que vous me dites que pour vous, le délai se termine au mois d'août, c'est ça?
Oui, oui.
Ouais, bon, donc j'ai bien compris que vous n'aviez pas contesté. Donc ça concerne les personnes qui, hier ou demain, vont recevoir un ajournement. Mais pour vous, bah non, vous allez être obligé d'attendre le délai, puisque vous n'avez pas contesté la décision, mais j'espère encore une fois que vous obtiendrez satisfaction. Mais voilà, ne vous dites pas tiens, au bout de 2 ans, je fais la demande automatiquement, ils vont me dire oui, ils vont réexaminer le dossier, mais ils pourraient trouver une autre raison qui, à leurs yeux, justifierait qu'on vous dise non.
Oui, franchement, j'ai pas commis de délit. Mon profil, rien que mon profil, c'est pas quelqu'un délinquant ou c'est vrai.
Non, mais madame,
son nom à quelqu'un. Donc,
j'entends bien, mais ouais. Vous savez, il n'y a pas forcément besoin d'une condamnation ou d'un profil de délinquant pour que l'administration vous dise non, je vous assure. On a des arguments qui sont tirés par les cheveux, des gens qui ont toujours été carrés.
Pour ceux qui ont encore des cheveux.
Pour ceux qui ont encore des cheveux. Je vous remercie, mon cher Philippe, me rappeler régulièrement. Je suis presque chauve.
Voilà.
Je vous remercie. Donc, revenons à nos cheveux. Enfin, revenons à la situation. Donc, voilà, le truc, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un profil de délinquant. Il s'accroche sur tout et n'importe quoi. Je le redis, vos histoires de points, bon, enfin voilà, bon, il n'y a plus de points, vous repassez le permis, on passe à autre chose. Ça ne mérite pas non plus d'être presque catalogué comme une délinquante. Ouais, c'est ça qui est un peu extraordinaire.
Oui,
mais voilà, je ne vais pas faire semblant. Il s'accroche, je le redis, sur tout et n'importe quoi. Vous avez parfois des refus simplement parce que vous avez un jour un voisin qui a déposé plainte contre vous, mais il n'y a jamais eu de suite. Bon, alors on se dit, voilà, donc s'il n'y a pas eu de suite, c'est que je ne suis pas délinquant. Eh ben, parfois c'est invoqué, parfois on invoque des mains courantes. Donc voyez, on marche un peu sur la tête. La main courante, c'est que je vais au commissariat, j'ai écouté, voilà, cette dame, elle m'a fait ça, mais je ne dépose pas plainte. Eh ben, on pourrait vous mettre ça en avant en disant, attendez, il y a une main courante qui vous concerne. Donc, voilà, ils ont un panel assez large pour embêter les gens. Je le redis, j'espère que pour vous, ça va bien se passer à partir du mois d'août, mais ça ne veut pas dire qu'automatiquement, on va dire, ok, on lui a déjà refusé, ça a été ajourné, et puis elle redépose un dossier, on va lui dire oui. Il pourrait s'accrocher à autre chose.
Ah
oui, oui, bien sûr. Donc
c'est pour ça, ça m'a découragé. Je suis pas encouragée maintenant pour redéposer une demande.
Non, mais j'entends bien. C'est vrai que quand vous dites ça peut décourager parce que c'est des démarches, sont des papiers à réunir. Enfin voilà, c'est rien d'agréable.
Ce n'est pas facile.
Voilà.
Du tout.
Mais bon, vous connaissez le truc, c'est-à-dire que par définition, si vous ne déposez pas le dossier, vous saurez jamais si ça peut passer ou pas. Vous pouvez aussi être frustré là-dessus. Selon moi, ça vaudrait le coup quand même de faire cet effort-là, mais ce serait pas sérieux de vous dire qu'après un ajournement, automatiquement, l'administration donne satisfaction. Il leur arrive de trouver autre chose et puis à nouveau, alors soit d'ajourner, soit même de refuser totalement, bien sûr.
D'accord, ok. Ben, je vais essayer, je vais tenter ma chance. Et je penserai à vous.
Eh ben, écoutez, voilà. Bon, bah, c'est bon courage à vous, Jamila. Et puis, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous recontacter.
Merci beaucoup à vous. Merci, Philippe.
Gros bisous, Jamila.
De vous avoir. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir, Jamila.
Merci.
Et ne confiez jamais votre voiture à votre mari. C'est ça, finalement, l'histoire.
Ouais, enfin, ou à votre femme. Hein?
Alors, tiens, qui est avec nous, là? Allô, bonjour. Alors.
Oui, allô.
Oui. Quel est votre prénom, monsieur?
Mohamed.
Mohamed.
Voilà, je suis de Narbonne. Je me permets de vous appeler. Je vous avais un petit SMS. Parce que j'avais une petite interrogation. Parce que ça fait maintenant à peu près 2 ans que j'ai fait une demande de naturalisation. Mmh. Et ça fait 30 ans que je suis en France.
Oui.
Aucun problème, zéro souci. Donc je travaille, je paye des impôts. Voilà, c'est carré. Et entre-temps, si vous voulez, donc, je me suis marié avec, avec une conjointe marocaine, donc, qui était en situation irrégulière.
Ouais, allez-y, Mohamed.
Voilà, en situation irrégulière. Et puis, donc, par la suite, donc, j'ai eu la convocation de la préfecture de l'Hérault. Donc, j'ai passé un entretien. Donc, tout s'est bien passé sur l'histoire de la France, tout ça. Et puis, 4 mois après, je reçois un courrier comme quoi ma demande est ajournée à 2 ans, de refuser, parce que mon épouse est en situation irrégulière.
Bah oui.
Ça existe ou pas ?
Bah oui, 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 oui. C'est-à-dire que, vous voyez, vous étiez bien parti en disant ça fait 30 ans, zéro problème. Au jeu de l'administration, c'est comme ça. Oui. À partir du moment où vous êtes marié avec une personne qui est en situation irrégulière, c'est que vous ne respectez pas entre guillemets les codes de la République, c'est-à-dire que alors on dit pas que vous êtes délinquant, mais ça y ressemble. Donc on va vous faire payer le fait de vous être marié avec avec une femme qui est en situation irrégulière, qui a pas de papier.
D'accord.
Ouais. Okay. Donc c'est pas surprenant. Et puis si vous étiez évidemment renseigné avant, n'importe quel confrère, j'avais presque normalement constitué, vous auriez dit monsieur faites attention, parce que quand on a des projets de mariage de cette nature et en parallèle quand on a un dossier de demande de naturalisation, tout ce que vous allez faire ou tout ce qui peut être fait par votre épouse ou votre mari va avoir des répercussions sur vous. Et là, la répercussion est directe, mais c'est pas une surprise. Ouais, je vais même pas vous dire, tiens, c'est scandaleux, c'est bizarre. C'est même hyper évident que l'administration, elle est de toute manière, compte tenu de votre changement de statut, elle est vous refuser, évidemment. Donc même chose, ajournement. C'est ce qu'on disait à l'auditrice précédente. Alors d'abord, il faudrait faire en sorte, et ce serait une bonne chose, que madame soit, ou elle l'est peut-être depuis, régularisée.
Normalement, 3 avril, normalement, c'est bon. Après, elle est régularisée au 3 avril.
Ouais. Oui. Mais, voilà, c'est-à-dire que là, vous avez fait une démarche, on vous a dit le 3 avril, c'est bon.
J'étais à la préfecture, le 3 avril, ils m'ont dit ça fera 5 ans, mais étant donné que vous avez un enfant ensemble, tout ça, une promesse d'embauche, tout ça, il n'y a aucun problème.
Ouais, alors, même chose, ce que je vous dis sur la nationalité, vaut pour les demandes de régularisation, avoir un enfant, être en France depuis 5 ans, je le redis, il n'y a pas un automatisme. Il y a ce qu'on appelle un pouvoir.
Ouh là 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 là, ah là là.
Bah ouais, non mais moi
vous avez serré la main de l'imam Abdelali Mahmoud. Allez, vous l'avez du gel vite là.
Je serre la main à l'imam. Ouais. Ouais, il est en connexion directe avec qui vous savez. Voilà, donc bah par contre lui prend ses précautions.
Alors non mais l'imam est en train de se mettre du gel partout. Allez, là,
une seconde hein, je me nettoie les mains. Non mais oula, c'est grave. Je suis en train de faire l'éloge en disant qu'il est en connexion directe, on risque rien. Le type, il va se désinfecter. D'accord, ça, j'en prends acte. Donc j'étais juste en train.
Et est-ce que le gouvernement français c'est des hagards?
On répond à ça ou pas?
On a Mohamed dont la femme est régularisée à partir du 6 avril.
Voilà. Oui, non. Est-ce qu'on vous a dit, monsieur, ça c'est important, le 6 avril, on va lui remettre un titre de séjour? Est-ce que c'est ça qui vous a été dit ou pas?
Si vous voulez, donc j'ai parce que je me suis dit quand j'avais fait une demande pour la carte de circulation pour mon enfant.
Ouais.
Et si vous voulez, donc j'ai posé la question donc à une dame super gentille. Donc elle m'a dit, écoutez, est-ce que vous avez le dossier? Donc je lui ai montré le dossier que j'avais constitué, tout ça. Et elle m'a dit, voilà, avec un dossier comme celui que vous me présentez, si vous le présentez, normalement, il n'y a aucun problème pour la régularisation.
Alors c'est le terme, j'entends bien, et je vous le souhaite, c'est le terme normalement. C'est-à-dire que ce discours-là, on l'entend très régulièrement quand les personnes vont à la préfecture et puis exposent leur situation. Et des fois, la déception, elle arrive parce que vous recevez une décision qui correspond pas du tout au discours.
Vous avez dit, oui.
Eh ben oui, donc il faut quand même Encore une fois, je vous dis, j'espère que ça va aller dans votre sens, mais il faut quand même tempérer un peu le truc. Maintenant, demain, madame est régularisée. Vous pouvez, dans ce laps de temps qui vous a été donné, donc à l'expiration de ce délai de deux ans, redéposer un dossier et voir ce que ça dit. Mais si vous, vous étiez surpris par la réponse qui vous a été apportée, je vous assure que c'était hyper évident que cette affaire allait faire l'objet d'un ajournement.
D'accord.
Voilà, merci, Mohamed.
Merci beaucoup, c'est très gentil.
Merci à vous pour votre appel.
Bonne continuation.
Merci Mohamed.
Merci Mohamed. D'autres appels dans un instant. Vous voulez poser votre question ou vos questions à Maître Serran, vous composez 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Affaire avec ton pote, pas. Le gars j'aime.
Vous voyez l'imam hors antenne ce qu'il dit,
hein, vu, hein, hein. Ah, c'est drôle ça.
Vous avez vu ce qu'il dit, ah, l'imam hors antenne. Ah, tiens, 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 tiens. Bon, imam Abdelali, vous intervenez à 10h.
Je suis jaloux.
Mais non, ah, là maintenant c'est Maître Serran et vous avez raison, dit, moi, et vous avez raison d'être jaloux de Maître Serran. Parce que Maître Serran, il incarne
la... Non, mais la, c'est pas, je suis pas jaloux de Maître Serran.
La beauté, l'intelligence.
Non, 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 Maître Serran, c'est mon frère.
Bon, tiens, 01 53 48 3000. Je peux plus.
Il a besoin de la bonne foi.
Tiens, mangez, mangez. Tiens, Imam Abdelali, tiens, une chouquette. Voilà. Une chouquette. Regarde, celle est belle. Oh, regarde, ça, c'est de la chouquette. Alors, qui est avec nous?
C'est Ahmed. Allô?
Ahmed, on partagerait bien une chouquette avec vous, mais je vous passe Maître Serran. Bienvenue sur Beurre FM, Ahmed.
Bonjour, Philippe. Bonjour, Maître.
Bonjour, Ahmed.
L'Imam Abdelali.
Marche pas, regarde. Mais c'est pas moi.
Tout à l'heure, à
10h. Ouais. Le temps qu'il mange, tu
l'as mal. Non, mais je sais qu'il est là. De toute façon, il nous écoute et il nous fait plaisir. Voilà, donc on profite l'occasion pour lui passer le bonjour.
En plaisant.
On vous écoute, Ahmed. Ahmed.
Ben, écoutez, j'ai une question à poser à Maître. En fait, on a reçu notre beau-père en visite familiale qui venait d'Algérie il y a 5-6 mois de ça. Donc on l'a reçu avec un visa de court séjour, tout va bien. Il est resté 2 semaines, on va dire une quinzaine de jours chez nous, et après il était un peu malade. On l'a emmené chez mon médecin traitant, donc en payant la note. Quelques médicaments, et troisième semaine, il avait trop mal. Donc on l'a emmené au médecin, il nous a dit qu'il faut le rapatrier en urgence, aux urgences. Donc on l'a emmené à l'hôpital, c'était un vendredi, quelques visites, des radios, et ainsi de suite. Ils se sont rendus compte que sa maladie, il était grave, donc c'était un week-end. Hein. Donc ils l'ont gardé le samedi, le dimanche. Et le lundi, on reçoit la note que c'est, on doit payer 4 ou 5 000 euros. Alors qu'il était atteint, on s'est rendu compte, hein, qu'il est atteint d'un cancer, en fait, un cancer, aux intestins ou à l'intérieur du ventre, quoi. Donc, ce qu'on a fait, on l'a sorti de l'hôpital parce qu'on ne pouvait pas payer cette somme. On l'a sorti le lundi. Et puis, on l'a rapatrié au pays où il est décédé un mois après. Après, on a l'administration. La question, en fait, c'est que l'administration fiscale, l'administration fiscale de l'hôpital, le CHU de Tours, nous réclame cette somme. Est-ce qu'on est obligé de la payer? Est-ce qu'il faut... Comment peut-on faire passer ça, si vous voulez? Parce que c'était quand même des soins d'urgence vitaux.
Oui, alors la notion de cas de force majeure, c'est en disant écoutez, on n'avait pas d'autre choix, n'a pas d'incidence. Il n'avait pas une assurance, l'intéressé?
Absolument,
quand il
avait une assurance, ouais. Oui, assurance voyage.
D'accord, mais c'est souvent une question qui nous est posée en disant mais maintenant on a une facture, est-ce qu'on doit la régler? Alors ça peut sembler terrible comme ça, compte tenu des circonstances, voilà, compte tenu de l'urgence et autres, pour autant. Les soins ont été prodigués, en tout cas il a été hospitalisé. Alors oui monsieur, il y a des frais et souvent en tout cas quand on est sur le territoire français avec la sécurité sociale, on se rend pas compte que tout ça coûte une fortune, mais le problème c'est que votre beau-père ne relève pas de ce système-là. Donc quand la facture vient, la seule possibilité que vous pouvez avoir avec l'administration fiscale, c'est éventuellement de régler en plusieurs fois, mais ils sont juridiquement, ils sont pas en tort quand ils vous réclament ça. Donc je peux comprendre que la facture est douloureuse, je peux l'entendre. Pour autant, monsieur, compte tenu de ce que vous êtes en train de me dire et compte tenu des circonstances, Il n'y a pas, sauf de manière gracieuse, l'administration qui, entre guillemets, vous pardonnerait en disant, bon, bah écoutez, on passe l'éponge. Mais en dehors de ça, oui, le montant est dû, c'est une question qui est souvent posée en la matière. Et la notion d'urgence, ou même la notion de cas de force majeure, ne passera pas. Ils seront insensibles et imperméables à ça.
Oui, mais maître, s'il reconnaît, si le médecin reconnaît que c'était des soins vitaux, ce monsieur, il était obligé d'aller
aux urgences. Non, mais que j'entends bien, que le médecin soit sur cet aspect-là, il n'y a pas de difficulté. Mais vous avez bien compris qu'entre l'argument que vous invoquez, la position de l'administration qui vous dit « attendez, moi, il faut me payer », bon, après, il y a des voies de recours, c'est-à-dire que...
Maître, je peux ajouter une chose. Sûr. Le fait que ça soit pas lui, là, le monsieur qui appelle, qui a eu les soins, mais son père, est-ce qu'il peut très bien renvoyer à son père en disant, écoutez, vous avez qu'à réclamer à mon père, moi, j'ai rien demandé. Il aurait très bien pu être récupéré sur le bord du trottoir et puis qu'une ambulance l'emmène à l'hôpital. Comment ça se passe
dans ce genre de situation? Voilà, j'imagine qu'il y avait une attestation d'accueil, vous avez indiqué qu'il serait bien à telle adresse et autres, non?
Absolument.
Ouais, ben voilà. Donc,
n'était pas de mauvaise foi en fait quand on
a non, mais monsieur.
Mais sinon.
J'entends bien. Comprenez bien, je suis pas.
Que c'était un monsieur qui était malade sur le trottoir, on l'a emmené aux urgences parce qu'il avait besoin de d'assistance, on l'a emmené aux urgences.
Il aurait rien payé.
Ouais, c'est pas la même chose.
Absolument.
Non, mais oui, on est d'accord.
Il aurait eu les mêmes soins.
Voilà.
Quand même.
Mais complètement. Mais là, ça me semble difficile. Alors, encore une fois, je suis pas en train de dire que vous êtes de mauvaise foi. Mais la situation telle que vous me l'exposez, juridiquement, moi je réponds pas sur l'aspect est-ce que c'est bien, pas bien, moralement parlant.
C'est pas cela, c'est l'aspect juridique.
Voilà, sur l'aspect purement juridique, monsieur, c'est carré. Après, cette notion de cas de force majeure, rien vous interdit de l'invoquer. Mais alors d'abord, de l'invoquer quand vous répondez à l'administration, vous pouvez même demander ce qu'on appelle une remise gracieuse. Mais si c'est pas le cas, si vous dites non, attendez, nous on est imperméable à ça, ça ne nous intéresse pas. Bon, vous verrez dans les courriers ou les relances que vous avez reçues ou que vous allez peut-être recevoir, vous avez la possibilité de contester cet aspect-là devant une juridiction. Ça me semble tiré par les cheveux. Voilà. Donc il faut le savoir, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous accueillez quelqu'un chez vous, à partir du moment où il y a une attestation qui dit que X ou Y vient à la maison et que vous vous engagez, c'est pas simplement une pure formalité, c'est que quand vous avez des éléments de cette nature, quand l'intéressé vient pas avec une assurance spécifique, oui, quand il y a des soins sur le territoire français...
Il avait une assurance voyage.
Est-ce que vous l'avez mis en avant cet aspect-là ou pas? Est-ce que vous les avez contactés?
Eh ben, je les ai contactés, oui. J'avais écrit un courrier en leur expliquant que le monsieur est décédé. Mmh. Moi, je ne suis pas responsable. Moi, je l'ai invité, si vous voyez ce que je veux dire.
Ben, stop.
Moi,
non, mais monsieur, la responsabilité, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où... Pourquoi est-ce qu'on demande aux intéressés de dire quelle est ou quelle sera votre point de chute? C'est aussi sur cet aspect-là. Mmh. Donc vous voyez, c'est pas je peux comprendre la finalité de votre raisonnement, mais en droit c'est ça le truc. Après donc vous me dites vous avez contacté l'assurance et ils vous ont dit quoi?
J'ai pas contacté son assurance, moi je suis en France donc j'ai pas accès à son assurance.
Je sais pas, il y a pas un petit billet ou une information qui est donnée quelque part, non?
Écoutez, avant de prendre l'avion, de toute façon, là-bas, au pays, il faut prendre une assurance voyage. Et je pense que c'est une assurance qui couvre, comme le cas...
Non, mais ma question, c'est ça, monsieur. Je vous demande si vous, l'un d'entre vous, a pris l'initiative, peut-être, de se rapprocher d'eux.
De l'assurance? Non.
Oui, l'assurance. Non. Il faudrait peut-être le faire, alors, parce que peut-être qu'il y a des angoisses pour rien. Et qu'à partir du moment où vous les contactez, alors évidemment...
À ce moment-là, c'est l'assurance qui prend...
Sous toute réserve. Ah ouais. Après, il y a des clauses, des dispositions, enfin voilà. Mais sous toute réserve, à minima, il faudrait au moins faire ça.
Non, mais maître, moi, après avoir écrit la lettre au fisc, ils m'ont répondu cette semaine en me réclamant une attestation de relance à la succession et puis leur faire passer aussi le nom du notaire...
Ça veut dire qu'ils vont se sucrer là-dessus,
moi,
quoi.
Ça. Moi, je ne suis pas dans. Je ne suis pas obligé de leur fournir ces informations.
Non. Monsieur, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de fournir ces informations-là. Pour autant, en dehors de fournir ces informations-là, je le redis, ce qui, moi, me semblerait peut-être...
Ça m'empêche pas de les fournir non plus, ça me dérange pas de les fournir.
Alors fournissez-les, monsieur, c'est-à-dire vous me dites « je veux pas les fournir », je lui dis « vous êtes pas obligé », vous me dites « ça m'empêche pas ». Alors faites comme vous voulez, pardon, mais vous êtes un peu compliqué, c'est-à-dire si vous avez envie de les fournir, vous les fournissez, ils vont pas venir vous braquer. Voilà, c'est le truc, c'est qu'il y a personne qui va défoncer votre porte et vous arrêter pour dire « on veut les infos », vous faites... Comme vous voulez. Je vous dis simplement, il me semble, pour ma part, que la première chose à faire, peut-être avant de fournir des infos ou pas, si ce monsieur avait, et vous me l'avez confirmé, une assurance, il serait judicieux de contacter peut-être ce service, de leur dire voilà la situation et voir d'abord ce qu'ils vous répondent. Parce que peut-être que parmi les clauses dans cette assurance, il y a éventuellement, je dis peut-être, une prise en charge.
D'accord.
Faut vraiment commencer par ça.
D'accord.
Bien. Ahmed, est-ce que vous avez une autre question ?
Non, je vous en prie, Philippe. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous faites pour nous. Et puis, bonne continuation.
Et à votre service. Merci, Ahmed. Merci à vous, Ahmed. On va accueillir rapidement un dernier auditeur. Bonjour et bienvenue. Coucou.
Allô ?
Bonjour, quel est votre prénom ?
Oui, c'est Abdel.
Abdel, vous voulez parler à Maître Serran ?
Oui, bonjour.
Vous avez bien raison.
Bonjour, Abdel.
Oui, bonjour. C'est juste, je vous réponds pour le monsieur, parce que moi, j'ai le même cas.
Ah, ça, c'est intéressant, le partage d'expérience, oui.
Le monsieur juste avant, là.
Allô ?
Oui, le monsieur d'avant, là, pour cette histoire d'assurance.
Oui.
Alors, on vous écoute.
Moi, j'ai le même cas. Une fois, il a une assurance, c'est l'assurance qu'il paye. Parce que moi, j'ai une famille qui veut chez moi, mais par contre, il faut qu'il soit hospitalisé. Il faut hospitaliser, donc moi j'ai ramené la dame, ils ont fait plein de radios, plein de scanners, tout ça, machin. Et la dame, il m'a appelé, il m'a dit la dame, il faut qu'il paye. J'ai dit, madame, il a une assurance. Il m'a dit, ramène-moi l'assurance. J'ai ramené l'assurance, j'ai dit, il faut envoyer les papiers. J'ai dit, non, c'est vous qui payez. Il était donc dans l'hôpital, c'est eux qui ont communiqué avec moi. C'est juste, j'ai appelé l'assurance, et la dame, il a payé juste 30 euros.
Bon, voilà. Mais ça, c'est le bon sens. À partir du moment, effectivement, d'ailleurs, quelles que soient les situations, où vous avez une assurance, il faut d'abord se rapprocher d'eux, évidemment.
Oui, c'est ça, le monsieur. Il faut vous rapprocher avec l'assurance et parler avec l'administratif d'hôpital pour qu'il communique. Par contre, le monsieur, il faut qu'il appelle l'assurance.
Ah, bah oui, encore une fois, c'est
parce
pas.
C'est hospitalisé.
Bah oui, mais c'est pas. Oui, il n'y a personne qui appellera l'assurance si vous ne dites pas il y a une assurance et si vous prenez pas l'initiative. Je suis entièrement d'accord avec vous. Donc, si ce monsieur nous écoute toujours. Bon, voilà, il faut, encore une fois, dans un premier temps, mais c'est le premier réflexe, d'ailleurs je suis même surpris que l'intéressé n'ait pas eu ce réflexe-là, c'est de contacter cette compagnie d'assurance, et puis je le redis, en fonction des clauses, il n'y a aucune raison que ce soit pas pris en charge, mais il faut d'abord commencer par ça. Il a dû tarder, puisque avant d'être relancé par le Trésor public et autres, c'est qu'il y a un laps de temps important, il y a dû avoir un premier ou un deuxième courrier, faut pas perdre de temps quand c'est comme ça, si on veut rester tranquille.
Non, mais tous les assurances, ils prennent en charge lorsque un monsieur... dans le territoire, il était
hospitalisé. C'est le propre de l'assurance, justement. Pourquoi est-ce que cette assurance est prise? C'est pour, éviter ce genre de difficultés.
Oui. Donc moi, mon question, c'est, moi j'ai travaillé avec un employeur.
Ah, vous aviez une question quand même. D'accord, je pensais que vous nous appeliez que pour ça. Voilà,
non,
dites-nous.
Non, j'ai une question. Et j'étais un accident de travail, parce que l'accident de travail, donc, que l'employeur, il n'a pas respecté la contraction de médecin de travail. Comme moi, il faut que je travaille à Rouen. Mais par contre, lui, il m'envoyait à Évreux.
D'accord.
Donc, le médecin traitant, le médecin conseil et le médecin de travail, il a demandé à l'employeur que ce monsieur-là, avec ce problème de dos, tout ça, il ne peut pas conduire, il ne peut pas, avec des médicaments, tout ça, il ne peut pas aller à Évreux. Donc, le cas, c'est l'employeur, il n'a pas accepté, il est resté à Évreux jusqu'à j'ai un accident de travail.
D'accord.
Donc, et après, moi, j'ai écrit des courriers à l'employeur, j'ai demandé le droit de rentrer. Je lui ai expliqué que je suis dans un danger, il faut que tu me cherches un emploi à Rouen. Il n'a pas accepté. Et en fin de compte, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une reprise. Et après, j'ai pris mon congé. Et lorsque j'ai terminé mon congé, j'ai fait une rechute. Donc, je ne peux pas travailler. J'ai fait toujours une reprise avec 10 soins.
Ouais.
Et après, j'ai fait une rechute. Et c'est à ce moment-là, j'ai arrêté jusqu'à le médecin conseil. Il m'a passé en validité catégorie 2. Et en même temps, le médecin de travail m'a essentiel une laps, que je ne peux pas marcher, que je ne peux pas allonger, tout ça, machin. Donc l'employeur m'a essentiel pour un licenciement.
Mm-hmm.
Le premier temps, il ne m'a pas connu, il m'a écrit sur le papier d'emploi, maladie d'origine non professionnelle. Et après, j'ai envoyé un courrier, je lui ai dit sinon, si vous ne connaissez pas que je suis une maladie professionnelle, je transmets le dossier à l'employeur. Mm-hmm. Donc il a peur, il a modifié le papier, il m'a envoyé le papier. Aujourd'hui, moi j'étais censé le 23 février 2018. Est-ce que maintenant...
Monsieur, ce qu'on va faire, puisque je suis désolé, l'émission va se terminer,
Là c'est quand même complexe, ouais, c'est complexe, hein, ça peut pas avoir une réponse en 15 secondes.
Ouais, je vais vous donner mon numéro de téléphone, et puis vous m'appelez, comme ça on prendra le temps de voir ça tranquillement, d'accord?
D'accord.
Vous avez de quoi noter?
Oui.
Alors 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64. Je vais m'autoriser à donner mon adresse mail pour ceux qui préfèrent ça. maître.serran@gmail.com. Voilà, n'hésitez pas à m'appeler, comme ça on prendra le temps d'en discuter.
Voilà, Ahmed, ce qu'on pouvait vous dire. Ah non, Abdel, pardon. C'est Abdel qui nous a appelé.
Merci Abdel.
Merci Abdel, Maître Serran. On vous retrouve vendredi prochain dans un instant. Il a mangé des chouquettes, donc il est gorgé de vitamines et de protéines. C'est l'imam Abdel Ali Mahmoud que vous retrouvez.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.